Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. Vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, des associations rennaises vigilantes face à la possible expulsion d'un couple de Palestiniens, interview de Dominique Godris, metteuse en scène et comédienne pour annoncer une date d'Heureuse, la nation qui n'a pas d'histoire, il y aura de la musique dont une nouveauté, la rediffusion d'un reportage sur une expo qui est toujours à voir au Diapason à Rennes, et puis recommandation, une rencontre proposée par Bresse Femmes. Bienvenue dans La Reine. Allez, comme chaque jour, on va commencer cette émission avec une info du jour que j'ai choisie pour vous parmi tout ce qui se dit dans l'actualité locale. Et aujourd'hui, on relaie l'inquiétude d'une vingtaine d'associations, syndicats et partis politiques du département. Parmi eux, on retrouve entre autres la CIMAD, d'ici ou d'ailleurs, la Ligue des droits de l'homme ou encore le MRAP, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Tous réunis donc pour soutenir monsieur et madame Awad, deux enseignants originaires de la bande de Gaza. Ils vivent en France, l'un depuis 2016, l'autre depuis 2018, arrivés avec des visas étudiants. Depuis, deux de leurs enfants sont nés à Rennes et après une première demande d'asile rejetée, leur nouvelle demande de titre de séjour a débouché sur une OQTF, quatre lettres pour obligation de quitter le territoire français. Pourtant, leur dossier, en tout cas d'après les associations, répondait à tous les critères de la circulaire Valls, à savoir plus de 5 ans de présence sur le territoire, une parfaite intégration sociale, des enfants scolarisés et une promesse d'embauche. Il y a un mois, c'était le 19 janvier, soit une semaine avant le rendu de la Cour de justice internationale qui constatait un risque de génocide dans la bande de Gaza, la préfecture d'Ille-et-Vilaine envoyait des éléments pour justifier sa demande d'expulsion. Je cite « Il est exact que la situation sécuritaire dans la bande de Gaza est très dégradée, mais le couple ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans leur pays d'origine et aucun élément pertinent ne démontrerait que leurs enfants seraient empêchés de poursuivre leur scolarité. La Cisjordanie est également évoquée comme possibilité de repli, mais aussi l'Égypte ou tout autre pays où les intéressés sont susceptibles de pouvoir séjourner légalement. La médiatisation de l'affaire a finalement amené la préfecture à clarifier la situation. Aucun éloignement vers la Palestine n'est organisé dans le contexte actuel. La demande de réexamen de la demande d'asile du couple palestinien suspend de toute façon la procédure d'éloignement. Alors pourquoi, dans ce cas, n'avoir prononcé aucun abandon de l'OQTF et continuer à maintenir la famille dans une situation de stress abominable ? C'est la question posée par les associations de soutien aux personnes exilées qui se disent prêtes à se mobiliser jusqu'à la régularisation de la famille. Allez, après cette info du jour, c'est l'heure d'une première interview pour annoncer une représentation d'Heureuse la nation qui n'a pas d'histoire, un spectacle construit entre autres lors d'une résidence au Diapason et présenté pour la première fois il y a un an au TNB dans le cadre du festival Travelling. La création visuelle a été imaginée en partenariat avec Vitrine, un duo rennais de projectionnistes.
En 1961, des groupes de jeunes Américains, hommes et femmes, noirs et blancs, effectuent en bus des voyages à travers les villes et États cadenassés par la ségrégation raciale. Durant leur périple, ils posaient de simples actes interdits par les lois raciales. Prendre place à l'avant des bus, les places interdites aux Afro-Américains, patienter dans les salles d'attente réservées aux blancs, ou encore s'installer au comptoir des cafés réservés aux blancs. Leurs actions sont un exemple de désobéissance civile, un moyen non violent de protestation encouragé notamment par Martin Luther King Jr. Les Freedom Riders se sont toujours abstenus de la violence physique, tout en étant souvent la cible d'une violence sanglante.
M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I. Bonjour Dominique Godéris.
Bonjour.
Vous êtes metteuse en scène et comédienne et on vous retrouvera sur la scène du Diapason à Rennes vendredi 16 février à 20h pour le spectacle Heureuse la Nation qui n'a pas d'histoire, qui a d'abord été un documentaire sonore, une création sonore dont on vient d'entendre un extrait et on le redit tout de suite, à trouver en ligne en libre accès sur cubeweb.media. Alors Dominique, vous êtes franco-américaine, vous vivez aujourd'hui en Bretagne. On vous présente comme artiste, chanteuse et traductrice. Ça vous va comme présentation?
Oui, on peut dire que j'ai fait plein de choses différentes. Ouais. L'arbre de l'artiste interprète a plusieurs branches, je dirais.
Depuis combien d'années?
Moi, je viens de la danse, danse contemporaine, que j'ai fait depuis que je suis petite fille. C'est ça qui m'a amenée en Europe. J'ai vécu longtemps en Belgique, mais après on fait des expériences. Des expériences amènent des questions et on a envie d'explorer ailleurs. Alors moi, la danse est devenue théâtre physique ou expérimental qui est devenu aussi travail de voix. J'ai toujours aimé la radio. J'écoute la radio comme un obsédé depuis que je suis très jeune aussi. J'adore la proximité de ces voix qui viennent dans nos oreilles. Alors on fait une sorte de rebond des projets et des questions et on va explorer ailleurs.
Et donc, vous venez des États-Unis. Vous venez de quel coin des États-Unis?
Je suis née à Tacoma, Washington, qui est à côté de Seattle. Mais je fais mes études à New York avec une école de danse de la compagnie Alvin Ailey. Aussi mes études en humanité, art et lettres à Fordham University, qui est à New York. Et après, je suis partie parce que j'étais attirée par le danse-théâtre qui existe en Europe, qui n'était pas vraiment développé aux États-Unis.
Le point de départ au projet qu'on présente aujourd'hui, c'est l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. On est en janvier 2017 et vous êtes, comme tout le monde, très étonné et marqué par la violence de la rhétorique, son omniprésence dans les médias et même pour dénoncer ce qu'il disait. C'était donc il y a 7 ans, vous vous en souvenez encore?
Oui, oui, malheureusement il est encore là et on voit que ça continue. Et c'est vrai que quand moi, or voter, participer dans les manifs, juste écouter les gens autour, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on est quelqu'un qui crée, on peut aussi proposer quelque chose pour, je dirais, un contrepoids, parce que c'est, vous avez bien dit, c'est cette rhétorique qui était pour moi tellement destructive. Et ça continue, on voit aux États-Unis, mais partout, en France c'est pareil, ça divise les gens au lieu de les mettre ensemble pour discuter de nos différences, nos points de vue qui ne sont pas pareils. On a tous des vécus très différents et on est plein des petites graines qui viennent des éducations et vécus. Pourquoi on ne peut pas simplement être ensemble et discuter, même si on n'est pas toujours d'accord.
Et donc cette discussion, vous l'avez menée avec un travail sonore. Il se trouve qu'au même moment, avec Aurélien Chouznou, qui est lui compositeur rennais, musicien, vous découvrez une nouvelle, Whatever Happened to Interracial Love. Elle est signée Kathleen Collins, cinéaste afro-américaine. Elle vient s'opposer frontalement au discours du président américain, nous ramène dans les années 60 à un moment assez important dans la lutte pour les droits civiques.
Exactement, et j'ai découvert ce livre, enfin c'est sorti juste après Trump était élu. Alors il y a un hasard, et finalement c'est les histoires, mais c'est comment, la dignité que j'ai ressentie dans ces nouvelles, comment on considère simplement, sans juger. Et pour moi, ça fait penser comment on représente la résistance. C'est pas juste hurler ou c'est aussi le respect de l'autre. Mais ok, ça, comment ça sonne? What does it sound like, respect pour un autre? Ou what does it sound like, courage face aux injustices? What does it sound like, courage? Et là, il y avait cette petite étincelle qui arrive dans les processus créatifs où on peut utiliser des bribes de cette nouvelle pour structurer un intime, un monde intime, pour aussi représenter cette fête de simplement observer. est considérée.
On va écouter un extrait, on est dans les premières minutes donc, de cette création sonore, Heureuse la nation qui n'a pas d'histoire, sortie en 2021 et qui est toujours à écouter sur cubeweb.media, superbe plateforme bretonne où on retrouve plein de documentaires formidables. On écoute donc un extrait.
An apartment on the Upper West Side, shared by two interracial roommates. It's the year of the human being. The year of race, creed, color blindness. It's 1963. An appartement sur the Upper West Side, partagé par deux colocataires interraciales. One roommate. C'est l'année de l'être humain. L'année daltonienne, race, couleur, croyance. C'est 1963. Une des colocataires, blanche, est une activiste de quartier à Harlem qui travaille dans un bureau sur Lenox Avenue ayant pignon sur rue. Elle a 22 ans, est amoureuse d'un jeune poète du collectif new-yorkais Umbra. L'autre colocataire, Negro, vient juste de remonter à la surface après avoir été en prison à Albany en Géorgie. Elle est amoureuse d'un jeune freedom rider, blanc, qui vient d'avoir sa mâchoire désarticulée dans une prison à Mississippi.
Un extrait donc du radio collage que vous avez réalisé en 2021 avec Aurélien Chouzenou, qui est aussi breton, musicien, compositeur. C'est donc le premier chapitre du projet Heureuse la nation qui n'a pas d'histoire que vous menez. Produit, on le dit au passage, avec le labo de la RTS, la radio-télévision suisse, qui vous a laissé une grande liberté sur la forme pour explorer ce sujet-là.
Exactement. On a eu avant ça un burst bruyant d'un rêve, de la SCAM, qui a aussi aidé à un peu mettre de l'air sous nos ailes et nous encourager d'aller chercher les producteurs, les partenaires pour réaliser ce projet. Moi, j'avais, je pense, une dizaine de minutes déjà pas très propres. Et juste pour l'anecdote, quand j'avais ces 12 minutes, en fait, avant de vraiment aller dans... avancer sur le projet. J'ai contacté la fille de Kathleen Collins pour demander les droits. Parce que je me suis dit, si elle dit non, bah, il faut que ça arrête là. Je ne peux pas, ce projet vraiment... Bien sûr, j'aurais pu trouver autre chose ou un autre... Mais pour moi, c'était extrêmement important d'avoir cette permission avant d'avancer. Et elle a écouté et elle m'écrit tout de suite, « Oh, it's so beautiful. Vous avez ma permission, allez-y. » Je pense qu'elle était très heureuse que le travail de sa maman, en fait, ça a remis en dialogue, même ces années après sa mort.
Avec des sujets qui sont aujourd'hui toujours d'actualité. Vous avez cité la SCAM, qui est la Société Civile des Auteurs Multimédia, qui vous a donc aidé à mener ce projet et pour arriver finalement à un radio-collage de 55 minutes qu'on peut retrouver en ligne et où on entend de nombreuses voix, puisqu'il s'agit d'un assemblage d'archives, de prises de son, de vidéos, de pellicules et de compositions musicales originales. On entend des voix bien connues, celles de Tupac, du président Kennedy, de Nina Simone, Martin Luther King ou encore Angela Davis, tout ça soutenu par votre voix et pour donc entendre d'autres voix que celles de la haine, de la peur, de l'ignorance et qui viennent ainsi tisser des années 60 jusqu'à nos jours une histoire des résistances au racisme et au suprémacisme blanc aux États-Unis. Avec ce travail, vous avez découvert des choses ?
Oh, beaucoup, beaucoup, les poètes, les penseurs. Et moi, j'ai eu une très bonne éducation. J'étais bien exposée, de littérature afro-américaine. Mais il y a tellement des choses qu'on n'est pas exposé. Alors, j'ai appris énormément, énormément. Et c'est même difficile, on ne peut pas tout mettre. Cette envie de partager ses voix ou les idées ou même une émotion qui, dans toutes ses facettes. J'ai beaucoup appris. Et j'ai un plaisir quand c'est possible, qu'on a justement des rencontres avec des élèves ou de discuter. Et je vois que même si c'est une histoire américaine, en fait, c'est universel. C'est le combat et le racisme, discrimination est vraiment partout et cette, en fait, cette erreur de hiérarchie. Il y avait un extrait de Jacquard, là je pense qu'on a enlevé finalement, mais où il parle justement de l'erreur que les gens ont faite, que le racisme ça n'existe pas, biologie, la race, le concept de race, et que les gens font l'erreur de remplacer une hiérarchie par une comparaison. Bien sûr, un homme n'est pas exactement comme une femme, mais de dire lequel est supérieur à l'autre, mais c'est absurde.
Toujours sur ce sujet, on écoute un second extrait où on va entendre la voix de James Baldwin, donc extrait de ce documentaire sonore intitulé « Heureuse la nation qui n'a pas d'histoire ». Et ensuite, on arrive à l'adaptation sur scène.
The year of the human being, c'est l'année de l'être humain. The year of race, creed, color blindness, l'année daltonienne, race, couleur, croyance, 1963. C'est 1963.
In the first place, I don't believe in race.
D'abord, je ne crois pas au concept de race.
What I was trying to do was precisely to use the greatest metaphor we have in this country. I mean,
ce que j'ai essayé de faire était précisément d'utiliser la métaphore la plus forte qu'on a dans ce pays, qui est le problème central de ce pays.
I was trying to destroy, if I can put it this way, the vocabulary in which one talks about what we call the Negro problem or the race problem.
J'ai essayé de détruire, disons, le vocabulaire avec lequel on parle du problème négro ou du problème de race.
It has been used always in my experience to obscure.
Ce vocabulaire a toujours été utilisé dans mon expérience pour obscurcir un fait si simple que ça en devient banal.
You are here beneath that sky and this earth like I am.
Vous êtes ici sous ce ciel et cette terre comme moi. Vous avez les mêmes obligations pendant ce bref temps où l'on est vivant, vous comme moi. Personne, vous ne pouvez pas et moi non plus, pour quelque raison que ce soit,
make oneself less.
Faire qu'on soit moins
than a human being.
Qu'un être humain.
I want you to clap your hands, come on.
Bon, James Baldwin vient de résumer ce que vous disiez juste avant au micro. Écrivain et militant pour les droits civiques et qu'on retrouve dans Heureuse la nation qui n'a pas d'histoire. Et nous voilà réunis aujourd'hui pour annoncer une adaptation sur scène. Ce sera à découvrir vendredi prochain, le 16 février, je ne dis pas de bêtises, c'est ça, le 16 février à 20h au Diapason. À quel moment arrive l'idée de prolonger ce projet-là sur scène ?
Ah, c'était toujours là. C'était toujours le but de rassembler les gens dans un espace d'écoute collectif. Mais comme l'écriture, on voulait tester l'écriture et la proximité de ce moyen de radio.
Qui est très immersif.
Exactement, et proche. Et les voix qui sont comme nos voix maintenant, dans l'oreille, dans, comme si quelqu'un était juste à côté de toi et décrit quelque chose qui se passe dans toute humilité. Il y avait ce moyen de radio et des types de voix qu'on retrouve. Mais c'était vraiment, la radio, c'était OK, on va tester l'écriture et voir si ça parle aux gens, si c'est possible, parce que c'est expérimental. Là, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, la musique, c'est Bob Dylan sur The March on Washington 1963. La voix de Baldwin, c'est tiré d'un entretien qu'il a fait parce que son livre est juste sorti, La prochaine fois, Le Feu, The Fire Next Time. Alors, tout ce qu'on entend, c'est vraiment les sons de l'époque. On avait aussi avec le RTS les archives. Ils ont ouvert et ils ont un trésor. Alors, on va trouver aussi les voix de journalistes de l'époque qui étaient là pour faire vivre l'histoire. Mais, comme j'ai dit, alors on a testé l'écriture et là, on a adapté pour la scène des endroits, réécrit certaines sections. Et c'est vraiment jouissif d'avoir. C'est comme la différence entre, je pense, le théâtre, jouer au théâtre et jouer au cinéma. C'est, les gens sont là ensemble.
Pour un moment collectif. Et vous ne serez pas seul sur scène. Vous serez accompagné d'un autre comédien et puis d'un dispositif sonore un peu particulier.
Oui, on a 11 enceintes. Alors, le public est entouré. Il y a même en haut, un plafond. Et il y a une vraie dramaturgie sonore. Avec Aurélien, on a vraiment réfléchi d'où vient, quelle voix, quel son, comment ça voyage. Et chaque chose a un poids. Comme on essaie de considérer chaque élément, chaque voix, que c'est juste que ça vient de quelque chose. Aussi par rapport à l'espace-temps, les archives viennent d'un certain endroit, les voix de moi et Léonce viennent d'une autre enceinte, et c'est un vrai travail, c'est invisible, mais c'est un dentelle spatiale sonore, je dirais.
Vous avez cité Léonce, donc Léonce Henri Henled, qui est le comédien qui sera à vos côtés sur scène pour cette représentation de Heureuse, la nation qui n'a pas d'histoire. Et évidemment, je voulais terminer en vous posant la question de votre perception d'un possible retour de Donald Trump au pouvoir, puisque la page n'est pas tournée, les sujets qu'on évoque sont toujours d'actualité, puisque le suprémacisme blanc est vivant aujourd'hui aux États-Unis. Ici aussi en France, l'extrême droite semble inarrêtable dans sa montée en puissance. Vous gardez toujours un œil sur ce qui se passe aux États-Unis, vous y êtes peut-être même amené à y retourner régulièrement.
Oui, je regarde avec beaucoup d'inquiétude. On voit aux États-Unis une société très divisée, avec beaucoup de haine et beaucoup de peur, je dirais. Et je pense que c'est la même chose en France, d'une certaine mesure. Je pense qu'on a besoin tous d'essayer de se respecter, respecter l'autre d'où il vient. Et essayer de parler ensemble, mais toutes ces choses deviennent très émotionnelles. Et quand les émotions explosent, mais on est plus raisonnable et on peut plus juste parler parce qu'on partage beaucoup plus qui nous sépare. J'ai pas de réponse très rassurante, je pense. La seule chose qu'on peut faire, c'est continuer d'en parler, parler ensemble, aller vers l'autre et c'est ça, c'est tout.
Et dire que là, au moment où on se parle, on est donc au moment des primaires, notamment républicaines aux États-Unis, avec la Cour suprême qui est en train de se pencher sur justement l'inéligibilité de Donald Trump, avec une élection qui approche et qui aura lieu, l'élection présidentielle, au mois de novembre 2024. Dominique Godris, je vous représente, vous êtes metteuse en scène, comédienne, et à l'origine de ce projet, Heureuse la nation qui n'a pas d'histoire, qui se décline en une création radiophonique à retrouver sur cubeweb.media, et aussi avec une adaptation sur scène. Et le spectacle, c'est vendredi 16 février à 20h au Diapason à Rennes. Les tarifs vont de la gratuité à 15€. Plus d'infos et réservations sur le site diapason.unif-rennes.fr. On va se quitter avec un morceau que vous avez choisi, c'est votre choix musical. Pourquoi celui-ci ?
Oh, j'adore cet artiste. J'adore sa voix et justement tout ce que je peux pas trouver des réponses à tout ce qui nous fait mal en ce moment, mais une voix comme Lonnie Holly, ça me rassure profondément, ça me donne l'espoir pour l'humanité.
Et ce titre, c'est Kindness Will Follow Your Tears, qu'on écoute tout de suite.
Can't you find most of the time it was in their dream. Most of the time it was in their dream. Most of the times it was on their knees. Telling me not to cry. because I was a little baby. Because I was a little baby. About to cry. Thought about it.
Yeah, I thought about it.
Who was mostly always dying? Spiritually. Angels was all around me. Angels was all around me. Drying my tears away. Sad, hush, little babe. Hush, little babe. Don't you cry. Don't cry, my little baby. Greatness come in the morning. Kindness will follow your tears. Greatness will come in the morning. And kindness will follow your tears. Dry them up, down through the years.
Lonnie, Holly et Bon Iver sur Canal B avec le morceau Kindness Will Follow Your Tears. C'était le choix musical de Dominique Godrys qu'on vient d'entendre dans une interview en studio. Et ce titre, vous pouvez le retrouver sur un album Oh Me, Oh My. C'est sorti en 2023 et c'est le troisième disque du musicien expérimental et artiste visuel américain signé chez Jaguar. Et Lonnie Holly, il sera en concert le 7 avril au lieu unique à Nantes si ça vous intéresse. Vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'info locale de Canal B qui s'écoute quand la diffusion fonctionne sur le 94.0, mais aussi sur le DAB+, la radio numérique terrestre. Par exemple, si vous avez un véhicule flambant neuf, on est aussi en écoute sur le site canalb.fr. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts des émissions réalisées par les salariés de la radio, mais aussi par les nombreux bénévoles. On continue cette émission avec une rediffusion maintenant. Et le reportage que vous allez entendre, il a été diffusé dans cette émission d'info locale le 17 janvier dernier. Il nous emmène à la découverte de l'exposition Ut Herbarium Poesis. C'est à voir au Diapason sur le campus de Beaulieu depuis le 18 janvier et jusqu'au 14 mars prochain. Est-ce qu'on y voit des curiosités végétales, imaginées par l'artiste plasticienne brestoise Anne Bernachin et qui questionne notre rapport à la nature et au temps qui passe? Une expo qui est à voir gratuitement.
L'exposition s'appelle Ut Herbarium Poesis, et donc en fait ça veut dire la poésie comme l'herbier, Parce que bon, bah, en histoire de l'art, il y a tout un concept sur ut pictura poesis, qui est la poésie comme la peinture, parce qu'à une époque, il y avait une hiérarchie entre la poésie et la peinture. Et ben là, je trouvais intéressant de faire un clin d'œil à ça, que les herbiers sont comme la poésie, et voilà, que la nature est aussi importante que la poésie, que l'un inspire l'autre, et voilà. Et donc, dans le hall, il y a aussi une présentation d'herbiers contemporains. Donc j'ai joué sur des transparences et puis des mots qui apparaissent derrière là, sur les feuilles, des feuilles que bah, je suis allée chercher bah, ici, d'ailleurs. Donc je m'appelle Anne Bernachin, je suis artiste plasticienne et je travaille en principal, mon médium c'est le végétal.
Originaire de Brest,
Installée à Brest et originaire de Saint-Brieuc.
Mon bretonne.
Ouais, et j'ai fait mes études à Rennes, voilà. Donc okay. Je suis contente de revenir pour exposer ici. Donc là, je suis en plein montage d'exposition. Donc on est dans le bocal, qui est une salle d'expo qui est située au Diapason sur le campus de Beaulieu. Donc là, je suis sur mon deuxième jour de montage. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Là, dans le bocal, il y a une partie installation végétale, donc où le public va déambuler pour être un peu en immersion dans un autre monde, un ailleurs avec quand même des végétaux qui leur rappellent bah, des choses qu'ils connaissent, mais qui sont présentées autrement et qui permettent d'avoir un petit regard de côté. Et aussi pour regarder la nature au quotidien, bah dans les détails, et d'être un peu plus contemplatif peut-être.
Dans votre pratique d'artiste plasticienne, qu'est-ce qui dans votre histoire vous a amené vers le végétal ?
La nature, c'est quand même un élément qui est très inspirant pour tous les artistes. Après, j'ai fait histoire de l'art, donc à un moment donné, dans ma vie professionnelle, j'ai programmé des artistes qui faisaient des choses vraiment magnifiques. Et bon, personnellement, je me disais que j'avais rien d'autre à apporter. Et il y a quelques années, donc il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé à glaner des végétaux. Et puis, je les collectionnais juste pour leur beauté. Mais j'en faisais rien de particulier, je les collectionnais. Et un jour, je me suis dit, bah, je pourrais peut-être faire des œuvres avec ça. Parce que en les observant et en les manipulant, en les gardant comme ça pendant des années dans des boîtes, bon, ils avaient bien séché et ils avaient un aspect finalement solide sous leur côté fragile. Et j'aimais bien ce paradoxe aussi, et de ce que le végétal pouvait nous montrer juste avant de disparaître. Et ça me faisait aussi réfléchir sur des questions existentielles, voilà. Sur où on va, d'où on vient. Et le végétal aussi, on vient de là, on vient des algues, on a plein de choses en commun. Donc bien que ça ne nous ressemble pas comme ça, ça fait quand même un effet miroir sur nous. Et voilà, donc leur forme m'a inspirée et là ça a commencé. J'ai commencé avec des lichens d'ailleurs, en forêt.
J'allais vous demander s'il y avait des végétaux qui vous inspiraient plus que les autres. C'est peut-être lié aussi à votre lieu d'habitat, quoi, ce qui vous entoure.
Oui, c'est vrai que en Bretagne, j'ai beaucoup d'hortensias. Et c'est vrai que les hortensias, j'entends souvent, moi, les hortensias, j'aime pas trop. Et en fait, quand ils voient les hortensias dans mes expos, voilà, ça les présente autrement et en plus, moi je les présente à un moment où en général les gens vont les jeter. Ils sont secs, mais ils ont un aspect dentelle en fait. Je les laisse vieillir dehors sous les intempéries, les tempêtes et il y a un aspect très dentelle et que je trouvais beau dans leur transparence. On voit les nervures. Donc il y a l'hortensia que je travaille beaucoup, les chardons aussi, les chardons maritimes. Ceux qui sont là, qui ressemblent à des yeux un petit peu, ne viennent pas de Bretagne. Ceux-là, ils sont d'Andalousie et de Corse aussi, c'est plus de Méditerranée. Ils étaient assez impressionnants, ils ont un petit côté science-fiction, donc je les ai transformés en yeux un peu étranges. Après
des écorces donc
les aussi. Écorces aussi pas mal. Alors les écorces, c'est vrai que j'avais commencé avec des écorces dans mes débuts parce qu'elles présentaient aussi des lichens dessus et ça apparaît comme des peintures finalement, des peintures dans la nature qui sont là sous nos yeux et si on les recadre on se dit ah, bah ça fait un tableau abstrait qui est parfait.
Des feuilles aussi ?
Des feuilles, oui, beaucoup de feuilles. Donc, je travaille vraiment les végétaux quand ils sont vraiment secs, morts. Et donc, à l'automne, je ramasse énormément. Là, il y a certaines feuilles qui, une fois sèches, ont un aspect solide et un aspect, comment dire, en mouvement. On a l'impression qu'elles volent. Et donc, elles sont très inspirantes. Parce que c'est vrai que dans mon travail, il y a beaucoup de choses autour de... Les choses sont un peu en lévitation, en apesanteur... Dans un entre-deux, quoi. Mmh. C'est un peu sur un côté un peu fantomatique. On est, ouais, ailleurs. Ouais.
À partir de cette matière première, quelle technique est-ce que vous utilisez ? Je vois des choses dans des liquides, je vois qu'il y a un peu un travail autour du fil. Je sais que vous avez aussi fait du cyanotype. On peut dire un mot sur la technique ?
Alors le cyanotype, là j'en présente pas sur cette exposition, c'est une technique maintenant qui est quand même très très utilisée, très abordable pour tout le monde, et en effet le cyanotype c'est un peu un des ancêtres de la photographie. Donc le principe c'est on met un produit sur une feuille de papier et donc on pose un objet dessus, on met une vitre par-dessus. Ensuite, ce sont les rayons du soleil, les UV, qui vont imprimer l'objet. Donc, ce qui est intéressant souvent, c'est de travailler sur des objets qui ont des jeux de transparence. Et donc, on laisse quelques secondes et ensuite, on va rincer sa feuille. Et là, on a l'empreinte de l'objet. Mmh. Et c'est vraiment magique, quoi. Là, j'avais fait avec des négatifs de nuages que j'ai recollés sur une feuille, mais c'est tout ce qu'il y a comme trace de cyanotype ici.
Sinon, beaucoup d'installations, de jeux avec les reflets.
Oui, j'ai beaucoup de miroirs dans mon travail, pour plein de raisons. Déjà, ça apporte de la lumière, mais aussi, ce que j'aime bien, c'est que le spectateur s'amuse à regarder l'exposition à travers les miroirs. Et de jouer sur les points de vue, et ça donne plein de tableaux différents. Et là, on a l'impression d'être dans un autre monde, en fait. Moi, je sais que quand j'étais petite, j'avais dans ma chambre une énorme armoire avec plein de miroirs. Et je passais mon temps à ouvrir les portes et à mettre mon visage entre, et on est multiplié, puis il y a plein de points de vue, puis on se demande est-ce que c'est vraiment la réalité ou pas. Et donc je passais beaucoup de temps à me demander qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté du miroir. Et finalement, ici c'est pareil, c'est un petit peu ce jeu de... Oui, un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles, il y a la traversée du miroir et d'aller de l'autre côté. Et puis il y a ce jeu de mots aussi sur la réflexion et la réflexion. Les miroirs, ça réfléchit, mais ça fait aussi réfléchir, comme la nature nous fait réfléchir aussi sur nous-mêmes.
Peut-être sur les couleurs. On a évidemment beaucoup de couleurs assez naturelles, mais aussi de l'or, et puis des choses un peu plus vives, des touches de bleu.
Ouais. Alors, j'avais commencé avec du doré derrière les écorces pour mettre en valeur aussi l'intérieur de l'écorce. Puis symboliquement, je trouvais que c'était que la richesse se trouve à l'intérieur. Et puis sinon, j'utilise pas mal de couleurs fluo, des roses fluo, des oranges fluo. Je trouve que ça fait vraiment ressortir les détails des végétaux. Donc je peins quelques détails. Et puis du coup, ça questionne aussi parfois le spectateur. Quand je peins, il se demande si c'est la vraie plante qui est comme ça ou pas. Donc il y a aussi cette question sur est-ce que c'est de l'artificiel ou du naturel. Donc ça, j'aime bien. Donc c'est vrai que des fois, on n'observe pas bien la nature, en fait. Hein. Et je travaille aussi avec des végétaux qui sont très communs. C'est aussi ça l'intérêt, c'est de voir que le matin, quand on va au travail à pied, pour ceux qui ont de la chance de faire ça, on peut s'arrêter juste sur une petite plante qu'on voit tous les jours, et puis de voir qu'elle a plein de belles choses à nous révéler.
Est-ce que d'avoir une matière qu'on imagine fragile pour beaucoup là, de ce qu'on voit devant nous, ça implique une façon de travailler particulière, plus précise, plus douce que si on travaillait sur une autre matière que le végétal ?
En effet, c'est vraiment délicat. Ouais. Il faut être patient Et moi, c'est vrai que ça me met souvent dans un état un peu méditatif, on va dire. Je suis un peu suspendue quand je fais ça. Là, ce matin, j'ai collé des papus sur l'installation avec les miroirs là contre les vitres, et ça m'a fait vachement de bien. Ça m'a apaisée. Tout le stress est retombé. Et après, bon, ben, on peut faire ça pendant des heures et on n'a même pas envie d'arrêter. Et c'est très précis. Ouais, on oublie tout en fait. Et on ne pense qu'à ça.
Est-ce qu'il y a une des installations qu'on pourrait décrire, sur lesquelles on peut s'arrêter, qu'on n'a pas encore regardé ?
Alors aussi, dans mon travail, j'aime bien écrire aussi sur les végétaux. Parce que des fois, quand je les ramasse, il y a des phrases qui me viennent, des phrases un peu poétiques, qui sont un peu énigmatiques parfois. Et quand je crée, bah, elles me reviennent. Et puis, bah, finalement, en effet, ça colle bien et ça veut dire quelque chose, quoi. Par exemple, là, il y a une écorce que j'ai ramassée suite à la tempête à Beaulieu, là, la tempête de novembre. Et donc, bah, en la voyant, bah, je me suis dit, bah, tiens, on va garder un petit souvenir de cet arbre-là qui a été coupé. J'ai peint une partie avec du rouge. Donc, ça fait ressortir la première couche d'écorce. Et puis bon, bah après, en fait, quand je les ai ramassés, il y avait le mot écorce qui me travaillait. Et je pensais à écorcher. Donc j'ai appelé ça écorcer vive. Et puis j'ai gravé ça sur une médaille, un peu comme les médailles de militaire. Parce qu'en fait, après cette tempête, ça paraissait un peu comme un champ de bataille. Hein. Donc ça fait un petit souvenir, parce que bah, je travaille aussi beaucoup sur la mémoire et le souvenir aussi, et le fait de conserver ces plantes dans un état ouais, juste avant qu'elles disparaissent. Donc c'est d'essayer de les retenir au maximum dans cet état de fragilité et de beauté, leur dernière beauté, quoi. Voilà.
Et quel temps vous avez passé sur le campus de Beaulieu pour votre cueillette ?
Je suis venue deux fois, deux jours en fait. J'ai découvert qu'il y avait une richesse de pins. Il y a plein de pins différents qui viennent du monde entier. Et donc, plein de sortes de pommes de pin. J'avais jamais vu ça. Donc, il y a plein de choses à voir sur le campus. Hein.
C'est une pomme de pin là, qui est plongée dans un bocal devant
là-bas.
Nous là.
Ouais. Non, ça c'est... alors, je ne me rappelle plus du nom. Je crois que c'est ça s'appelle orange, je ne sais pas quoi. Et donc, oui, ça me faisait penser à un cerveau. Alors du coup, j'ai appelé ça cerveau végétal.
J'aime bien travailler dans le formol.
Ouais, c'est ça. Et c'est aussi pour jouer avec les collections qu'il y a ici, justement. À Beaulieu, ils ont plein de collections zoologiques et botaniques qui sont super chouettes. Ça, cette œuvre-là, ça s'appelle The End is the Beginning. Donc, la fin est un commencement. Parce que bon, ça, c'est une plante que j'ai trouvée... à Brest, hein, dans un champ. Ben, là, on ne la regardait plus dans cet état-là. Et le fait de la mettre en tas, voilà, c'est juste avant la décomposition. Et le fait de mettre ça juste avec une feuille blanche derrière, finalement, c'est très graphique. Et moi, je trouvais que c'était très beau.
C'est le début du coup, de quelque chose.
Ça va être le début d'autre chose, parce que la matière va se transformer, elle va renourrir la terre.
Je m'endors avec une boule au ventre de la taille de la lune. De la lune. Et dans le pire, je ne m'endors pas. Et dans le pire, je ne m'endors pas. Et je fume. Et je fume. C'est fascinant comme je n'arrive pas à vivre. Comme pour autant j'ai très peur de mourir. Fascinant. C'est fascinant. Je devrais profiter de chacun des instants qui me sont offerts. Mais je ne sais pas faire. Non, je ne sais pas faire. Dans le meilleur des cas, je m'endors avec une boule au ventre de la taille de la lune. la lune. Attends le pire, je ne m'endors pas. Attends le pire, je ne m'endors pas. Et je fume. Ouais, je fume. Solo dans la cuisine. Je te colle un Oreo. J'ai relu quelques mails. Ils disent tous la même chose. Que je suis un très bon artiste. Qui fait de très mauvais choix. Ils n'ont donc toujours pas compris. Que je n'ai jamais eu le choix. Que dans le meilleur des cas, je m'endors avec une boule au ventre de la taille de la lune. De la lune. Et que dans le pire, je ne m'endors pas. Ouais, dans le pire, je ne m'endors pas. Et je fume. Ouais, je fume. La 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 la.
De la Lune par l'artiste Chaton sur Canal B. C'est une presque nouveauté musicale, puisqu'on retrouve ce titre sur un album sorti en 2023. Ok, c'est son titre. L'un des nombreux disques de cet artiste originaire de Lyon et dont le vrai nom est Simon Rochon, un garçon avec de très beaux cheveux longs qui a composé pour de nombreux artistes que vous n'entendez pas sur Canal B, mais sur des radios plus mainstream. L'Arène, c'est l'émission d'info locale de Canal B qui se termine toujours avec la recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des petits conseils modestes, d'événements à vivre près de Rennes. Il y a parfois aussi de quoi nourrir vos envies de lecture, de podcast ou de documentaire. Aujourd'hui, on annonce la prochaine rencontre du média en ligne Bresse Femme. Excision, une autre voie possible. C'est le sujet douloureux qui sera évoqué en compagnie de Martha Diomandé, la fondatrice et directrice de l'association ACESA. Elle travaille en Côte d'Ivoire pour lutter contre l'excision, mais aussi ici en France pour sensibiliser aux mutilations génitales féminines. Pour l'écouter, ça se passe jeudi 15 février à 18h au Salon de thé culturel qui est installé Place du Souvenir à Rennes, et tout ça autour d'un thé à la menthe. Pour plus d'infos, il y a le site internet bressefemme.fr. C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la Reine. Le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.